Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous à la veille de l'investiture de Donald Trump, le 47e président des États-Unis. Nous allons parler de la démocratie américaine, ou plutôt du chaos de la démocratie américaine, pour reprendre le titre du livre de notre invité aujourd'hui, Ran Halevy, historien, philosophe, spécialiste de sciences politiques. Qu'en sera-t-il de ce nouveau mandat ? L'intronisation d'un homme qu'aucune convention politique ou morale ne retient et que des millions d'Américains couvrent d'une irrévocable immunité expose le pays à tous les hasards, écrit Ran Halevy. Mais ajoute-t-il, le Trumpisme possède les moyens d'abîmer la République américaine, mais non de la transmuer en autocratie illibérale et encore moins en dictature. Nous allons en parler donc dans un instant, dans ce nouveau numéro d'Idées, le magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde, à écouter aussi en podcast sur l'appli RFI. Bonjour, Ran Halevy.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Je l'ai dit, vous êtes historien. Vous avez la profondeur de l'historien. Et grâce à la réédition, enfin l'édition en livre de poche de votre livre, Le chaos de la démocratie américaine, nous allons essayer de faire le point, puisque demain, Donald Trump va être investi pour un nouveau mandat de 4 ans. J'ajoute que c'est une nouvelle édition inédite. Ran Halevy, avant de parler de Trump en particulier, peut-on dire qu'il est le fruit de son époque ?
Il est le produit d'un phénomène qui travaille la démocratie américaine depuis plusieurs décennies. C'est une polarisation politique, idéologique et culturelle qui confronte deux Amériques qui ne se parlent pas, qui ne se voient plus, qui ne communiquent pas et qui vivent chacune une histoire qui n'a que peu de choses en commun avec l'autre. Nous avons un parti démocrate qui est travaillé par l'extrémisme ou une politique identitaire qui n'a pas su canaliser et maîtriser, ce qui l'a exposé d'ailleurs à une défaite électorale cuisante aux dernières élections. Il faut savoir que les Républicains ont gagné la Maison-Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants, et un parti républicain qui est pris, je dirais, en tutelle, à la fois par Donald Trump et par un type de populisme auquel Trump a donné des couleurs, un visage et un contenu tout à fait particulier.
Ran Halevy, avant de parler précisément de Donald Trump et de la démocratie américaine avec Donald Trump, vous précisez que ce livre est un livre d'histoire du présent et plus spécifiquement d'histoire politique.
Oui. Oui, l'histoire politique a été pendant très longtemps considérée comme une forme marginale ou non noble et de la science historique et du travail historique. L'École des Annales a promu avec un grand succès une notion de longue durée et d'un type de déterminisme économique qui, lui, d'une certaine manière, produisait l'histoire et qui était par définition hostile à l'idée d'une histoire événementielle, qui paraissait quelque chose de très marginal et superficiel, ou d'une histoire politique qui paraissait trop étriquée pour expliquer le monde. Moi, je pense le contraire, et je suis pas le seul à le penser, que c'est le politique qui détermine le déroulé de l'histoire, dont avec des notions qui sont d'abord françaises, qui sont anciennes, qui ont été forgées dans l'histoire moderne, notamment par Montesquieu, dont le ressort principal est le rapport entre le pouvoir et la liberté, ou, si l'on veut, entre l'État et la société. L'histoire politique est pour moi le déterminant majeur de l'intelligence historique.
Anna Lévy, vous vous interrogez d'ailleurs dans ce livre sur l'utilisation, entre guillemets, que feront les Américains de cet épisode historique. Comment vont-ils inscrire cette journée du 6 janvier 2021 qui va être au cœur de notre conversation, à côté du 11 septembre 2001, par exemple, pour ne parler que de l'histoire récente?
C'est une question qu'un Américain ne poserait jamais.
Oui.
Pour les Américains, il n'y a pas, comme chez nous, les journées qui ont fait l'Amérique. Pour les Américains, il y a l'arrivée des pèlerins, il y a la déclaration de l'indépendance, éventuellement cette fracture terrible, meurtrière qu'a été la guerre civile, et c'est tout. J'ai d'ailleurs posé à des amis américains, à des collègues, quelles sont les journées qui ont fait l'Amérique? Il n'y avait, d'abord, ils n'ont pas compris la question.
Alors, vous faites référence à une prestigieuse collection historique, les journées qui ont fait la France.
Oui. Qui a été créé à la fin des années 60 aux éditions Gallimard et qui a été repris et développé depuis. Et donc, avec cette expérience des journées qui tracent une ligne de partage de temps entre un avant et un après, qui produisent des fractures profondes, j'ai essayé d'appliquer ce type d'interrogation au 6 janvier. Avec la question, quel est le sens du 6 janvier dans le déroulé de l'histoire américaine et quel peut être le souvenir du 6 janvier longtemps après cet événement? Mon hypothèse serait que c'est une journée qui trace une ligne de partage, qu'il y a une fracture énorme qui s'est produite ce jour-là, mais d'une manière qui est un peu déconcertante parfois pour les observateurs, parce que finalement, après l'émeute du Capitole, le vote de la certification du triomphe du président Biden a été fait, sanctionné. L'inauguration a été faite dans les règles, même si Donald Trump ne l'a pas honoré de sa présence, qui est un précédent. Et que finalement, il y avait, c'est un drame, c'était un drame spectaculaire, d'autant qu'il a été vu en direct par le monde entier. Mais tout est rentré dans l'ordre, il y avait quelques morts. Non, je ne le dis pas d'une manière anodine, mais on n'est pas dans la terreur révolutionnaire. Mais c'est une journée qui a fait l'Amérique, pour emprunter cette expression, parce que le légendaire national, le lieu, le temple de la légitimité nationale a été violé par une émeute sans précédent qui visait à abîmer ou à porter atteinte, porter la main sur la Constitution au nom de la Constitution.
Alors justement, Ran Alevi, nous allons remonter le temps et revivre en quelques minutes cette journée du 6 janvier 2021. Il faut rappeler que c'était le jour de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle que Donald Trump a perdu et que Joe Biden a gagné. Alors, cette journée a commencé avec un discours de Trump. On va revenir sur ce discours de Trump parce que grâce à vous, en quelque sorte, j'ai lu les 26 pages du discours et c'est quelque chose. Et il y a beaucoup à dire sur ce discours. Donc, écoutons d'abord un extrait très court de Donald Trump avant les événements, l'invasion du Capitole.
On va descendre Pennsylvania Avenue, on va aller au Capitole et nous allons redonner aux républicains la fierté et l'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays.
Alors ça, c'est la fin de ce discours qui fait 26 pages. J'hésite même à utiliser discours, tant c'est décousu. Rana Lévy, on va en reparler. Et revivons donc les événements avec cette fois un reportage, donc le 6 janvier 2021, de Vincent Souriot.
Il est 13h à Washington. Devant la Maison-Blanche, Donald Trump vient d'électriser ses partisans avec un discours incendiaire. On ne se rendra pas, on n'abandonnera jamais, vous n'abandonnez pas quand on vous a volé, martèle le président sortant, notre pays en a assez, on ne peut plus supporter ça. Quelques minutes plus tard, à 3 km de là, les premières barricades tombent autour du Capitole. Après plusieurs minutes d'empoignade, des centaines d'émeutiers débordent la sécurité et franchissent l'enceinte qui entoure le Parlement américain. Ils cassent les vitres, bousculent les vigiles débordés et pénètrent dans la salle de la Rotonde, au cœur de la démocratie américaine, alors que des dizaines de parlementaires sont encore présents dans le bâtiment. Il est 14h30, le républicain Peter Welch se filme, cloîtré dans l'hémicycle de la Chambre des représentants. On vient de nous dire que du gaz lacrymogène a été tiré dans la rotonde et on nous demande de mettre les masques qui se trouvent sous nos sièges. L'évacuation des élus commence 15 minutes plus tard dans une ambiance très tendue. Les policiers du Capitole dégainent leurs armes pour protéger la sortie des députés. Et lorsqu'une femme tente de franchir ce périmètre, une balle est tirée et la touche mortellement. Le Capitole restera occupé jusqu'à 17h30 avant que les sénateurs ne reprennent leur session dans la soirée.
Suite de ce numéro du magazine Idée consacré au chaos de la démocratie américaine avec notre invité Ran Halevi, grâce à la publication en poche de ce texte, nous pouvons faire le point à la veille donc de l'investiture de Donald Trump. Là, nous jouons avec le temps. Demain, investiture du 47e président. Là, nous revenons 4 ans en arrière. Alors, je voudrais d'abord que nous évoquions ce discours que vous avez évidemment analysé, qui est un texte assez décousu et assez finalement subtil, j'ose le mot, puisque finalement Donald Trump fait chauffer son public, mais il se garde, d'ailleurs c'est l'objet d'un débat, d'appeler à l'action violente. Il dit même, je sais que tout le monde ici va bientôt marcher vers le Capitole pour faire entendre sa voix de manière pacifique et patriotique. Il ose ces mots. Quand on voit ce qui s'est passé après, on peut être étonné.
Il y a une contradiction. Trump, c'est un orateur extraordinaire, mais un orateur qui ne ressemble pas aux orateurs politiques que nous avons connus. Il s'adresse à un public particulier, il n'a jamais un texte devant lui, il improvise et il vise, je dirais, les passions qu'il sait chauffer à blanc chez un public. Et il passe quand même dans ses discours des messages, je ne dirais pas subliminaux, mais qui sont très bien captés par son auditoire. D'abord, dans l'extrait que vous avez cité, il dit quelque part, nous allons restaurer coûte que coûte la démocratie américaine et nous allons expliquer aux républicains ce qu'ils doivent faire. C'est une chose qu'il répète plusieurs fois dans ce fameux discours décousu, interminable et décisif. Et on peut prendre l'histoire par l'autre bout. Au moment du procès des émeutiers du Capitole, beaucoup d'entre eux disent au tribunal ou aux journalistes « Mais nous y sommes allés et nous y sommes entrés parce qu'il nous a dit de le faire. Après tout ce qu'il a fait pour nous, on ne pensait pas et on ne voulait pas faire autrement. » Autrement dit, devant un tribunal qui lui vérifie les faits et établit des responsabilités pénales, il est possible que Trump y aurait échappé. Mais dans la réalité de fait, le fait de l'incitation à l'émeute et l'idée même de plier la volonté de la représentation nationale par la force ne faisait de doute ni aux auditeurs ni aux acteurs du 6 janvier.
Il faut rappeler, Ran Halevi, qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui a rendu ses conclusions, son rapport en décembre 2022, vous le rappelez dans votre livre, rapport de 800 pages où la culpabilité de Donald Trump est démontrée et que s'il n'y a pas, vous soulignez aussi que s'il n'y a pas eu d'impeachment, de démission forcée, c'est qu'il n'y avait pas la majorité.
Oui. Pour le faire. Les fondateurs de la République américaine ont été conscients de la possibilité d'avoir un président véreux ou un président passible d'une destitution. Ils ont établi les termes et les règles d'une destitution légale d'un président coupable d'avoir manqué à la Constitution. Mais ce qu'ils n'ont pas imaginé, c'est que les lois sont parfois captif des passions politiques, des dérives idéologiques qui neutralisent leur pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé avec la destitution. Il suffit de faire une comparaison entre Trump et Nixon. Quand Nixon a été impliqué dans l'affaire du Watergate, il est allé voir ses pairs républicains, les sénateurs républicains, les représentants, pour leur demander de le soutenir, de le protéger d'une procédure de destitution. Ils l'ont envoyé balader. Et sachant qu'il allait être destitué, il a démissionné. Quand on voit le vote du Congrès, à la fois dans l'affaire Bill Clinton, qu'on a oublié, qui a menti sciemment aux représentants et à des commissions d'enquête, et qui a échappé à la destitution un peu comme Trump, c'est-à-dire une majorité de représentants a voté la nécessité de le juger, et le Sénat l'a disculpé. Et ils l'ont fait les uns et les autres par pure arithmétique électorale. Il y avait une majorité des républicains à la Chambre, majorité de sénateurs au Sénat, et l'affaire a été réglée. Depuis, toute la procédure de la destitution a été, je dirais, vérolée par, je dirais, l'évolution idéologique ou les dérives idéologiques de la démocratie américaine.
Alors parlons de la démocratie américaine, continuons à parler d'elle et de Donald Trump. Vous écrivez, Rana Levy, dans votre livre, « Donald Trump réussit ce qu'aucun de ses prédécesseurs les moins recommandables n'avait osé concevoir, accommoder la fonction présidentielle à son tempérament plutôt que plier sa conduite publique aux usages et convenances qu'elle réclame. »
Oui, c'est un homme qui a transposé les règles, je dirais, du business, de la télé-réalité dans la sphère du pouvoir. Il n'a pas opéré, à proprement parler, une révolution, parce que la contestation de ce qu'on a, les Américains appellent, nous aussi, l'establishment politique, grondait depuis très longtemps. Il y avait des signes avant-coureurs très révélateurs, le succès et ensuite l'échec du Tea Party, qui était un mouvement populiste.
Qui a préparé le terrain, en quelque
sorte. Qui a préparé le terrain, et le terrain a été préparé, je dirais, aux deux extrêmes de l'échiquier politique, par le Tea Party d'un côté, par l'idée, et puis par une idée très ancienne, qui est inscrite dans l'ADN de la culture politique américaine, c'est que Washington, c'est loin, Washington, c'est les institutions, l'Américain est un individualiste qui poursuit son chemin. Et dénoncer l'establishment de Washington était un sport national. Mais il a pris des formes depuis, je dirais, une vingtaine d'années, sans précédent, qui consistait à opposer une haute légitimité à la légitimité démocratique. C'est une sorte de dispute de légitimité qui court-circuite, je dirais, les institutions démocratiques depuis un certain temps. Trump lui a donné une forme absolument inédite par sa personnalité, par son extraordinaire charisme qui lui attire un attachement d'une population énorme et, ce qui est encore plus étonnant, qui ne lui ressemble pas du tout.
Et ce qui est étonnant également, Rana Levy, c'est que vous soulignez dans ce livre que les Américains qui ont manifesté, notamment le 6 janvier, mais tous ceux qui votent pour Trump, ne sont loin d'être des révolutionnaires professionnels. Ce sont des Américains ordinaires.
Il y a dans cette foule, quand il y a une foule de telle ampleur, il y a un peu de tout. Mais on ne peut pas réduire cette foule à soit des révolutionnaires, soit des hors-la-loi, soit des extrémistes, des sectes. Les sectes, certaines sectes étaient très actives au cours du 6 janvier, mais il y avait beaucoup de gens qui sont allés, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauver la Constitution, quitte à la violer pour le salut de la patrie. C'est-à-dire, le patriotisme n'est plus canalisé par les institutions. Le patriotisme est canalisé par le trumpisme.
C'est ce que vous appelez, Rana Levy, le pacte populiste américain.
C'est le pacte populiste américain. C'est un nouveau pacte que Trump a su non seulement forger, mais consolider et transformer ont puissance politique redoutable.
Et vous écrivez, le populisme est un rejeton adultéré de la démocratie libérale, à la fois association morale et alliance culturelle, entre guillemets, plus encore que politique, car elle transcende la division gauche-droite.
Absolument. Puisqu'on le voit d'ailleurs de deux côtés, peut-être on en parlera tout à l'heure, les deux, je dirais, partis qui sont le socle du système politique américain sont minés par les franges illibérales qui paralysent aujourd'hui la marche des institutions telle qu'on l'a connue. Et l'aspect principal de cette marche des institutions qui est le dialogue bipartisan. C'est pour ça que quelqu'un comme Biden qui quitte aujourd'hui le pouvoir, c'est un homme qui appartient à un autre monde où les procédures bipartisans au sein du Congrès étaient la règle du fonctionnement des institutions.
They suspect they're getting fucked over, but they're too proud to admit it. They don't want to hear it from us. He tells them we're the enemy.
But if they're weak, why are they dangerous?
They have guns. Lots of guns. And they're not for hunting.
De ce numéro d'idées consacré à la démocratie américaine à la veille de l'investiture du président Trump pour un second mandat. Nous sommes donc en compagnie de Hannah Levy et nous parlons de ce livre, Le chaos de la démocratie américaine. Cette démocratie est au cœur de votre analyse, Hannah Levy, et vous soulignez, et c'est toute la difficulté de la situation des États-Unis, mais aussi d'autres pays, la France par exemple, que la démocratie a une contradiction, c'est-à-dire qu'elle est à la fois le régime qui veut former une nation, notamment quand il s'agit d'État-nation, la France, mais c'est aussi un régime qui fait l'éloge de la différence. Donc il y a une sorte de paradoxe. Et les États-Unis sont concernés précisément par ce paradoxe.
La différence, au sens de pluralisme, est inscrite, je dirais, par exemple, dans l'histoire de France. Nous avons formé à la fois un État et un peuple avec une diversité extraordinaire que nous avons tendance à oublier parce que nos rois ont fait le nécessaire pour nous rappeler et pour nous forcer à voir ce qui nous unit et pas ce qui nous sépare. Et d'ailleurs, la Révolution française a hérité de notre monarchie, de nos rois, cette idée de l'unité, cette idée très autoritaire et très forte, idéologisée, théorisée de l'unité, qui finit par recouvrir tout ce qui peut être pluriel dans notre culture politique, est-ce que déplorent les Bretons, les Basques et autrefois les Bourbonnais. Mais les États-Unis, eux aussi, la pluralité, je dirais, du peuple américain, c'est la pluralité qui venait, ethnique, qui venait de l'immigration. Mais l'idée de l'un est inscrite au fondement même de la République américaine.
Parce la diversité,
De la diversité, faisons un un. Et ce un a été mythologisé, d'ailleurs, dans la culture politique américaine, avant d'être fracturé des deux côtés, de deux manières. D'une part, par la culture wokiste, qui fragmente l'idée de l'identité, et d'autre part, par le Trumpisme ou le populisme américain qui oppose ou qui introduit et presque cherche à institutionnaliser une opposition entre le peuple et les élites. Et c'est peut-être une des choses les plus curieuses du Trumpisme, c'est qu'il associe une élite globalisante, internationalisée, l'élite du Silicon Valley et des grands groupes financiers, à un populisme qui est l'idée même de toute forme d'élite et qui est certainement opposé à, je dirais, l'internationalisation de l'économie, etc. Et ce sera une des contradictions logées au sein même du Trumpisme et de la nouvelle administration qui s'installe à partir de demain, c'est de concilier la Silicon Valley avec l'école bleue.
Elon Musk et Donald Trump.
Voilà. Il y a aussi un élément commun au wokisme, enfin pour parler vite, nommer d'une manière un peu générique, la gauche ou l'extrême gauche progressiste et identitaire d'un côté et le Trumpisme de l'autre. C'est que dans la démocratie, la force émane du droit. C'est le droit qui est la source de toute légitimité politique. Dans le Trumpisme, comme dans le wokisme, c'est le droit qui émane de la force. La légitimité vient non pas du suffrage universel, mais de la force. Et c'est un renversement gigantesque dans la vie démocratique qu'il faut combattre à tout prix, parce que la démocratie n'a pas mille formule pour survivre. Si le droit n'est pas au fondement de l'être ensemble national, la démocratie est abîmée.
Oui, parce que dans un de vos chapitres, Arnel Vie, vous parlez des convergences entre les deux camps.
Convergence illibérale.
Qui se retrouve sur trois points. La représentation belliqueuse de l'ordre des choses. Deuxième point, la méfiance pour le processus démocratique. Et troisième point, ce que vous appelez le négativisme radical.
Le négativisme radical, parce que quand vous regardez le Trumpisme, vous ne voyez pas très bien les propositions. Ce n'est pas une doctrine qui, comme le communisme ou le socialisme ou même le libéralisme, qui promet une sorte de programme d'action au service duquel la démocratie doit se mettre. C'est un négativisme radical et qui change. En fait, il est radical en ce sens qu'il change notre manière de voir les choses. Chez nous, c'est la famille, les institutions, les passés, les conventions, les traditions. Le Trumpisme tourne le dos à toutes ces valeurs ordinaires qui font la vie démocratique. Et quand on voit les nominations, certaines des nominations, il y a quelques très bonnes nominations de Trump pour sa nouvelle administration, mais d'autres, non seulement pittoresques, ou des gens qui sont des semi-délinquants, et qui deviennent une sorte de vedette. C'est-à-dire, leur légitimité vient de leur défaillance. Ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Il est nouveau même dans cette nouvelle administration par rapport à la précédente. Dans la précédente, Trump était le premier surpris de son succès électoral. Il a hérité des collaborateurs que lui fourguait le Parti républicain. Là, il constitue son monde, il l'a constitué en avance.
Rana Levy, vous dites quand même que Trump a compris le besoin de nation des Américains. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il a compris le besoin de nation parce que la fragmentation de la vie publique américaine, la décomposition identitaire, la contestation des origines de la nation américaine, la contestation de la déclaration de droit qui est dénoncée par des progressistes comme une sorte de charte de domination des Blancs sur les nouveaux arrivants et notamment sur les Noirs, ont complètement désorienté beaucoup d'Américains qui n'avaient plus, ne voyaient plus clair le socle de leur vie nationale. L'idée nationale a été subvertie d'une certaine manière par des revendications et des légitimations ethniques, raciales, identitaires, par l'idée même, par une subversion même de l'idée de l'égalité, par une notion détournée de l'équité qui explique que la véritable égalité, c'est la discrimination positive qui consiste à compenser, à promouvoir les damnés de la terre, les perdants de l'histoire, les discriminés théoriques ou réels, au nom d'une justice qui rétablit le mal fait par les pères fondateurs et, je dirais, les blancs WASP qui ont été à l'origine de la République américaine. Et donc, il y avait une sorte d'assaut généralisé, à moitié réussi d'ailleurs, un assaut généralisé contre les principes fondateurs de l'Amérique, contre ce qui fait le consensus américain. Et Trump l'a tout de suite l'a compris avec beaucoup de subtilité, et il a galvanisé ses publics au nom de ce que les progressistes attaquent, la nation, les fondateurs, la Constitution. Et on a vu, et moi je n'ai jamais cru que c'était par cynisme, que certains assaillants du Capitole ont invoqué la nécessité de violer la loi pour défendre la Constitution.
Est-ce qu'il n'y a pas derrière Trump aussi, je ne dirais pas une résurgence, mais une affirmation en quelque sorte de ce mouvement politique représenté par les libertariens, c'est-à-dire ceux qui estiment que, encore plus que Ronald Reagan, que le problème c'est l'État et que s'il n'y avait pas d'État, le monde irait beaucoup mieux.
C'est une formule qui traverse l'histoire américaine, la dénonciation de Washington et court à travers toute l'histoire des États-Unis. C'est le sport national et d'ailleurs des élus conservateurs se font souvent élire sur cette dénonciation.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais là, est-ce qu'on ne va pas un peu plus loin?
Mais les libertariens... Est-ce que Trump est captif des libertariens? Je ne pense pas. Il ramasse les soutiens là où il les trouve. Il a, comme tout homme qui a un succès national remarquable, il a ramassé des voix dans des milieux très différents et c'est pour ça que je ne croyais pas du tout et je ne crois pas du tout à l'idée d'une nouvelle coalition conservatrice, parce que cette nouvelle coalition est faite de pièces et de morceaux, dont le trait d'union, avec des ambitions très différentes, dont le trait d'union est Trump. Je serais très hésitant à identifier Trump au libertarianisme, auquel je ne suis pas sûr qu'il comprend grand-chose.
Thank you.
suite de ce numéro d'idée en compagnie de Rana Levy, avec lui nous parlons du chaos de la démocratie américaine. Rana Levy, vous analysez, vous essayez d'analyser aussi la personnalité de Donald Trump. Il y aura beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire sur ce personnage. Et vous dites par exemple que sa conception de la virilité, c'est en quelque sorte une forme dégradée, là je vous cite, de l'honneur, ce qu'on appelait l'honneur au temps de l'aristocratie.
Oui, c'est un homme pour qui la virilité, la force se combinent avec l'idée de la somme nulle. Dans les rapports politiques, comme dans le business, comme dans les émissions de télé à succès qu'il a menées, il y a des gagnants et des perdants. Il n'y a pas de compromis. L'idée même d'un dialogue, d'un compromis, lui est tout à fait étranger. Mais je crois que plus encore de la virilité, il y a chez lui, et c'est lié à la virilité, une obsession du loser.
De l'échec, oui, du perdant.
De l'échec et du perdant. Il le dit à un de ses biographes que pour lui, l'important n'est pas d'avoir fait faillite, c'était moins important que de paraître l'avoir fait. C'est-à-dire, c'est l'image du failli qui est beaucoup plus dommageable que la faillite elle-même. Et j'analyse sa réaction à son échec électoral en 2020, comme avec d'ailleurs dans les affaires, il a fait faillite plusieurs fois, mais pour lui l'important c'est de ne pas le montrer, c'est de ne pas avoir porté l'image d'un homme qui a fait faillite. Et c'était l'invention, l'idée qu'il y avait une triche et qu'il a perdu les élections à cause d'une fraude fomentée par ses adversaires démocrates et par les organisateurs du scrutin et du mode de la manière dont le scrutin a été organisé techniquement, c'est pour échapper à cette image de loser qui, d'après tous ses biographes, est son obsession principale. Lui n'a pas perdu les élections. Il les a gagnées, mais un complot démocrate et un complot de l'administration l'a privé d'une juste victoire qu'il continue à revendiquer. Et c'est tout à fait conforme ou en accord avec cette image de la virilité et de l'insuccès qu'il trimballe avec lui depuis sa jeunesse.
Ce qui peut expliquer, Rana Levy, son attirance pour les autocrates, les hommes forts, entre guillemets.
À partir du moment où la légitimité est une émanation de la force, la question de l'autocrate comme Poutine, etc., et le secondaire par rapport à l'impression que ces gens peuvent lui donner et à cette conviction naïve mais puissante chez lui que entre hommes forts, on peut s'entendre, on peut trouver des moyens, non pas de compromis parce qu'il n'aime pas les compromis, mais on peut comprendre à partir de la force qu'on incarne.
Un des chapitres forts de ce livre, Rana Levy, Le chaos de la démocratie américaine, c'est votre analyse de ce que l'on appelle les conventions. Et ça, Donald Trump se moque des conventions. Or, cette notion de convention est au cœur de la science politique aussi.
Les conventions, comme le dit Montesquieu, comme le dit plus tard Tocqueville, qui ont des pages lumineuses là-dessus, les conventions...
Les mœurs,
les traditions, les choses héritées, non écrites, non constitutionnalisées, participent de la vie publique avec autant de force que les lois elles-mêmes. Et d'ailleurs, l'un et l'autre partent de l'hypothèse que ce sont les mœurs qui désignent ou dessinent les lois et pas l'inverse. Les conventions, donc, sont partie prenante de la vie publique, et en les respectant, comme d'ailleurs Tocqueville le dit sur la religion aux États-Unis, on s'interdit soi-même de faire des choses que la loi autorise, mais que les mœurs condamnent.
Et vous prenez l'exemple, par exemple, de la Grande-Bretagne. Vous dites, vous nous rappelez qu'en Grande-Bretagne, le Premier ministre peut désigner la personne qu'il veut. La Convention fait qu'il désigne le chef de la majorité au Parlement,
c'est la culture politique anglaise qui nous, et notre culture nationale qui nous a légué l'idée de la tradition que les conventions jouent un rôle essentiel. Le problème, c'est que quand vous abolissez une loi, vous pouvez la rétablir, encore que rétablir une loi qui a été abolie ne va pas de soi et ne produit pas souvent les mêmes effets. Mais à partir du moment où vous pulvérisez une convention, elle ne revient pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Et avec Trump, par exemple, la manière dont il a mené cette dernière campagne électorale, avec une violence verbale sans précédent envers tous ses adversaires et parfois certains de ses alliés, a introduit une forme de langage que les conventions interdisaient de prononcer. C'est par, et il en va de même, par ailleurs, d'ailleurs, des destitutions, dont on appelle des impeachments. Ce sont les conventions qui interdisaient de voter la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un uniquement pour des raisons idéologiques. Et à partir du moment où cette convention a été une fois déjà trahie avec Clinton et recommencée avec Trump, l'impeachment a perdu son effet. L'effet qu'il avait pendant 150 ans.
Et à propos de Tocqueville, vous nous rappelez cette phrase qu'il faut méditer, et Tocqueville qui disait, évidemment, de la démocratie en Amérique, l'auteur d'un livre qu'il faut lire et relire, « J'avoue que dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique. » Donc il faut faire attention à ce qui se passe aux États-Unis, décidément.
Les conventions sont aussi des conventions constitutionnelles non écrites. Oui. C'est le non-dit, ce que la morale prescrit. Parler à Trump ou aux Trumpistes de morale, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit.
Vous dites par exemple, aussi autre exemple avec la Grande-Bretagne, que la limitation des mandats présidentiels allait de soi, deux mandats avant que la loi en 1951 n'écrive ça dans la Constitution. Donc là aussi, il s'agissait d'un usage.
Je ne crois pas qu'il existe un livre sur le nombre de conventions qui continuent à façonner la vie publique. Mais on serait étonné de l'ampleur et du rôle majeur des conventions non écrites et surtout non dites dans les démocraties modernes. Et c'est ça qui est complètement cassé aujourd'hui aux États-Unis et un petit peu aussi chez nous.
Alors à l'aube de ce mandat qui commence donc avec cette investiture, demain, Rana Levy, est-ce que le Trump numéro 2 vous inquiète particulièrement par rapport au Trump numéro 1 qui était déjà assez atypique, si je puis m'exprimer ainsi?
Il est plus inquiétant parce qu'il est beaucoup plus expérimenté. Il a une majorité confortable au Congrès. Il a un soutien populaire consolidé, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus fort que lors de son premier mandat. Mais comme je l'ai dit quelque part dans le livre, et c'est un constat que je partage avec des historiens et des politistes américains, la Constitution américaine possède encore des ressorts puissants qui permettent même de contenir ou d'éviter des dérapages, je dirais, dictatoriales aux États-Unis.
Même si tout est verrouillé, je pense par exemple à la Cour suprême.
La Cour suprême est composée, il ne faut pas l'oublier, des juges. Ce sont des juges, c'est pour nous incompréhensible, mais c'est depuis longtemps, toujours le cas aux États-Unis, que les élections, on désigne des juges en fonction, entre autres, de leurs inclinations politiques. Mais ce sont des juges qui appliquent la loi. Et le système judiciaire américain, il est très décentralisé. L'Amérique est très décentralisée et cette décentralisation produit naturellement du pluralisme et, je dirais, un système de contre-pouvoir qui peuvent encore protéger l'Amérique d'elle-même, si je puis dire. Parce
que entre la puissance de Trump sur le plan politique, président américain qu'on présente comme l'homme toujours le plus puissant du monde, et Elon Musk, là, on a vraiment le pouvoir puissance 10.
On a le pouvoir puissance 10, mais je rejoins ceux qui ont quelques doutes sur la longévité de cette association. Musk est un homme très erratique, c'est une sorte d'ovni qui, aujourd'hui, fait monter et descendre les bourses. Mais l'attelage Trump-Musk, à mon sens, ne peut pas durer indéfiniment parce que Trump ne peut pas avoir un électron libre dans ses parages comme Musk. Musk a déjà, commence déjà, à détourner et à irriter l'électorat trumpiste auquel Trump est extrêmement attentif. Là-dessus, il montre beaucoup d'habileté. Et il est pro-immigration. C'est un type qui... Bon, une immigration très choisie, mais il est pour l'immigration. Il est désavoué par une majorité de l'électorat. C'est-à-dire cette association avec Musk, il y a une majorité de l'électorat qui le désavoue. Et puis il y a autre chose. Ce serait utile de le comparer à l'actuel, au futur vice-président à partir de demain. Et Vance, qui est un homme aussi, c'est un populiste rationnel, plus construit, moins intuitif que Trump. Regardez la manière dont lui agit. Il agit beaucoup, mais il agit dans l'orbite de Trump, dont l'idée, l'espoir de lui succéder un jour. D'ailleurs, c'est le programme de Trump. Musk, un jour ou l'autre, va quitter la scène, ou en tout cas s'éloigner de la Maison Blanche et de la propriété de Trump en Floride, où il a élu domicile depuis quelque temps.
Il faut rappeler qu'il était démocrate à une époque.
Il était démocrate, il était très pro-britannique, il était centriste. Maintenant, il demande à ce qu'on démantèle le gouvernement anglais, qu'on condamne son premier ministre. Il veut acheter aussi Liverpool, le club de foot. Il se mêle des affaires politiques de l'Allemagne. Il s'est fait une amie en Italie, mais avec lui, rien ne dure très longtemps. C'est comme ses mariages.
Merci, Rana Levy. Je note quand même que vous écrivez aussi que le chaos de la démocratie américaine couve toujours.
Oui. Donc il faut... C'est une journée sans fin.
Merci, Rana Levy. Votre livre que je recommande s'intitule « Le chaos de la démocratie américaine ». Il est publié chez Gallimard, juste paru en poche dans la collection Folio.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.